right. Comme le monsieur à la grosse voix mentionne, 11h35 minutes dans les prochaines secondes, on va accueillir quelqu'un que j'aime bien lire et quelqu'un que j'aime bien avoir en entrevue. On parle d'alimentation. On le sait, les prix ont augmenté d'une manière hallucinante dans les dernières années. Puis quand on nous parle que le coût de l'épicerie va peut-être augmenter dans les prochains jours ou encore les prochaines semaines en raison des tarifs qui sont imposés par Donald Trump, on peut se poser certaines questions. Dans les prochaines secondes, on va savoir quel aliment qui pourrait être touché. Mais Pascal, moi j'étais persuadé que ça allait avoir un effet contraire pour les producteurs de chez nous, les PME québécoises ou encore canadiennes, qui se disent « Hey, tu sais quoi, peut-être qu'on aura moins de demandes du côté des États-Unis, mais c'est pas grave, on va faire des bons prix pour nourrir les Canadiens au grand complet, à l'échelle du pays. » Ben ça sera pas ça, probablement.
Puis on avait parlé à notre prochain invité, il y a peut-être un mois et demi, à ce sujet-là, puis ça semblait pas être trop dévastateur comme impact, ça a tout changé.
Peut-être, peut-être. On l'accueille, c'est Sylvain Charlebois, le food professor, professeur à l'Université de Dalhousie et directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Salut Sylvain.
Salut la gang.
Je suis le seul à penser qu'on allait avoir un été plein de deals avec les fruits, les légumes, tous les aliments qui allaient être dans les magasins parce qu'on n'est pas capable de les écouler aux États-Unis?
En fait, ça se passe pas si mal pour ce qui est des fruits et légumes. On a quand même des bons rabais, surtout pour ce qui est des légumes cette année, mais c'est pas en raison des États-Unis, là. Les États-Unis, c'est sont pas un facteur. Essentiellement, il y a une couple de choses qui se passent. D'abord, je pense que la récolte dans l'Est canadien est quand même excellente, là.
Ouais.
Donc, on voit que, en fait, les légumes, de la façon générale, sont moins chers que l'année passée. Là.
OK.
Ça va bien. Là. Et en plus, les bannières ont décidé de cesser d'acheter des produits américains, puis ils se dirigent vers d'autres sources qui sont quand même pas chères non plus. Ça nous aide beaucoup. Pour ce qui est des fruits, c'est moins évident, mais quand même, il y a des bons prix. Là. C'est dans d'autres sections de l'épicerie que les choses se gâtent un petit peu. Là.
OK. Est-ce que nos épiciers, la grandeur du pays, ou tiens, prenons le Québec, les marges de profit, est-ce qu'ils sont hyper élevées? C'est-tu du 15, du 20, du 30 % ou bien c'est un peu comme le milieu de la restauration, entre 2 et 3 %
Ben, les marges brutes sont, ça dépend de la bannière, ça dépend de l'entreprise. Là. Vous pouvez regarder les états financiers de Metro, de Sobeys Empire, puis de Loblaws, vous pouvez le voir vous-même. Là, les marges brutes, là, c'est toujours entre... Moi, je dirais entre 27 et 32 % dépendant de la bannière. Tout ça est relativement stable depuis les 6-7 dernières années, mais pour ce qui est des marges nettes,
ouais.
C'est toujours autour de 1,5 à 3 % à peu près.
OK, quand ouais. même. J'ai mis 30
%. C'est pas beaucoup,
ça.
Là.
Non, c'est
mais
ça.
Quand on regarde les états financiers de ces bannières-là, ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que, oui, ils font de l'argent, mais ils font beaucoup plus d'argent en vendant du linge, des médicaments, du cosmétique, ce genre de trucs-là. Dans l'alimentaire, là, ça se maintient pas mal. Là.
OK. La nourriture qui pourrait être impliquée là, avec les tarifs de Donald Trump, qui pourrait augmenter, là, tu me l'as dit, on parle pas de fruits. Les fruits, on va avoir des bons prix, pareil. Les légumes, sensiblement la même chose aussi. Les produits laitiers, ça peut-tu augmenter? Pas vraiment non plus.
Les prix, non. Ben, en fait, pour ce qui est du lait liquide, on sait bien que le lait liquide au Québec est réglementé. Il y a une fourchette de prix, là, donc ça, c'est assez prévisible. Là. Pour ce qui est d'autres choses comme le fromage, le yogourt, nous, on s'attend à des hausses relativement modestes, là, 1 à 3 % C'était nos prévisions il y a 8 mois, puis on maintient toujours ces prévisions-là. Là. Donc, ça va pas si mal. Dans les viandes, c'est différent. J'imagine que vous avez remarqué que les visites au comptoir des viandes, sont chères.
Moi, j'achète juste les étiquettes rouges maintenant. Puis je vais souvent en fin de journée, quand le boucher a fini sa journée, puis a regardé ce qui avait pas passé dans la journée, là, il met des étiquettes rouges. Ben, moi, je vais faire mon épicerie quand il y a des étiquettes rouges. Ça coûte un peu moins cher.
C'est pas une mauvaise stratégie, ça. C'est pas une mauvaise stratégie. Puis je suis sûr qu'à Québec, il y a des bannières à rabais qui ont émergé. Là.
Oui.
Il y a des indépendants. Là. Vous ne boudez pas les indépendants. Souvent, les gens pensent Si un commerce est petit, ça veut donc dire que le commerce est plus cher. Pas nécessairement. Surtout dans les viandes, vous allez être surpris. Là. Donc, j'irai voir une fois de temps en temps. Dans le cas du bœuf, faut faire attention. Souvent, on n'affiche pas d'où vient le bœuf, mais en raison du prix du bœuf en Amérique du Nord qui a explosé, on importe de plus en plus de bœuf de l'Australie et du Mexique. Donc, il faut demander au boucher.
fait que mon bœuf peut venir de l'Australie puis être pratiquement moins cher que si c'était un bœuf canadien.
Comment ça s'explique?
C'est un peu hallucinant, là.
Ben moi, j'ai mangé du bœuf mexicain.
Oui.
C'était pas très bon, là, en passant. Pourquoi? Parce que souvent, le bœuf mexicain provient d'un animal plus vieux. Donc, la pièce n'est pas aussi tendre. Mais dans le cas de l'Australie, là, c'est incroyable. La qualité est quand même bonne. Je pense pas qu'elle est aussi bonne que le bœuf canadien, mais quand même, la qualité est bonne, puis souvent, okay, les pièces sont pas chères. Donc, si vous voyez un rabais pour ce qui est du bœuf, demandez au boucher d'où vient le produit, puis ils vont probablement vous confirmer que le produit il vient d'Australie.
Mais comment c'est possible? Je comprends pas que ça soit moins cher avec le transport, avec la... je veux dire, c'est énorme. Ils sont-tu à perte?
Non, pas vraiment, mais l'Australie... En tout cas, moi, j'ai visité l'Australie à quelques reprises, puis sont tellement bien organisés, là. C'est incroyable, parce que ils sont loin de tout, hein. Ils sont loin de tous leurs clients. L'Australie vend pourquoi 23 milliards de produits alimentaires, de produits laitiers à l'Asie. On s'organise. Au niveau logistique, on s'organise. Il y a des bateaux et on développe des économies d'échelle logistique qui font en sorte que les produits, quand ils arrivent en Amérique du Nord, ben les prix sont très compétitifs. C'est simplement pour ça. Chose que le Canada ne fait pas très bien, soit dit en passant.
Est-ce que le poisson, le thon, exemple, pourrait être touché en raison des tarifs de Donald Trump? Donc, c'est un thon canadien qui a été pêché chez nous, mais on va quand même conserver un bon prix ou peut-être même l'augmenter parce qu'on ne peut plus nécessairement l'envoyer aux États-Unis?
Toi, tu parles du thon en canne?
Oui.
Le thon en canne, c'est sûr qu'il va augmenter parce que en raison de l'acier. L'acier est tarifé des deux côtés de la frontière, là, à 50%. Là. Ça fait mal, ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en canne à l'épicerie, les marges sont très minces, là, comme on parle de cents, là. OK? Donc, en augmentant le coût de l'aluminium, de l'acier, ce matériel-là, ben c'est certain que le centre du magasin, on va augmenter. C'est probablement, moi, il y a quelques sections qui m'inquiètent. À l'épicerie, c'est le centre du magasin où il y a beaucoup de cannes, beaucoup de produits emballés, beaucoup de produits secs. On s'attend à des hausses au centre. Le surgelé aussi. On s'attend à des hausses.
Donc, les produits secs, là, on parle des pâtes, des céréales, ben il y a des conserves aussi. Ouais.
OK, mais je veux attirer l'attention là-dessus, les gars, parce que ce sont les produits de prédilection pour les familles qui en arrachent.
Exact.
Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Là. C'est pour ça que, tu sais, moi, je suis un peu inquiète, là. Puis, tu sais, avec ce qui se passe avec les États-Unis, là, bon, on dit souvent, le 35%, c'est pas si grave que ça, parce que la majorité des produits sont exempts en raison de notre entente de libre-échange avec les États-Unis. Attendez une petite seconde, là. Ça, c'est un argumentaire très théorique parce que en pratique, là, à la frontière, les choses se compliquent drôlement. Et surtout, ce qui se passe aux États-Unis, et j'ai discuté à quelques transformateurs ici au Québec depuis quelques jours, on a perdu beaucoup de comptes américains parce que les entreprises américaines achètent de plus en plus américains. On boude les produits canadiens parce que il y a de l'incertitude, là. Il y a de l'incertitude. On est en chicane avec les Américains.
Ouais.
On s'en s'est pas entendu. Alors, si les Américains, les entreprises américaines ne veulent pas être exposées à des risques, si par exemple M. Trump décide du jour au lendemain d'augmenter les tarifs de 50% pour tel et tel produit, ben, on veut pas être exposé à ce genre de choses-là. Alors, Trump est en train de réussir à ce niveau-là en forçant les entreprises américaines d'acheter américain. Et avec ce phénomène-là, il y a beaucoup de gens qui pensent, ben si on a plus de produits qui partent pas des États-Unis, on va avoir plus de produits ici, donc les prix vont diminuer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui risque d'arriver, c'est que des entreprises québécoises vont augmenter les prix sur le marché domestique, donc tous les produits au centre du magasin surtout, pour compenser des pertes de revenus qu'il aurait pu obtenir en vendant aux Américains. Fait que c'est un peu ça qui se passe actuellement.
OK. Mais comment on peut lutter contre ça de notre côté? Parce que, tu sais, tu parlais de la viande tout à l'heure. Il y a plein de gens qui me disent, moi, Yann, la viande, avant, je l'achetais 3-4 fois par semaine. Là, c'est une fois par semaine seulement. Puis je me dis, mais si tout le monde boycotte ça un peu plus qu'avant, la viande, les prix devraient avoir une certaine tendance. Ils devraient peut-être dire, ouais, on est peut-être un peu trop cher, on va les diminuer. Pourquoi on voit pas cette tendance-là, Sylvain? Ils acceptent de perdre de l'argent puis de jeter la nourriture?
Bien, en fait, il y a quand même un marché secondaire qui se développe. Là. Je sais qu'à Québec, il y a des magasins là, qui vendent des produits. Ils rachètent des produits qui ont pas été vendus au sein de la chaîne. Donc, on travaille avec la chaîne de provisionnement de façon différente. Il y a les bannières qui nous vendent des produits qualité, dont la date de péremption est quand même assez loin. Okay. Mais il y en a d'autres qui vendent des produits à rabais. On parle de yogourt à 1$, là, genre. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment pas cher. Là. Donc, il y a ce marché-là qui se développe de plus en plus. Alors, les familles qui en arrachent, là, ben trouvent ces magasins-là de plus en plus et vont les visiter de façon plus fréquente.
OK. Donc, je comprends que Donald Trump est en train de réussir son pari en disant aux Américains « achetez américain », puis ben, il oblige les entreprises américaines à produire pour les Américains. Est-ce que les Américains sont autonomes de leur côté au niveau de la nourriture? Sont capables d'être autonomes sur pas mal tout? Là?
Ben, c'est ça que je pense que beaucoup de gens ici au Canada n'ont pas compris. C'est que les Américains sont beaucoup plus autonomes que nous. Là.
Ouais.
Quand on regarde les chiffres, on dit « ouais, mais on est des grands clients des Américains, ils achètent beaucoup de nous, ils ont besoin de nous, ouais, c'est beau, là. » Mais c'est parce qu'il y a des substituts pour à peu près tout ce qu'on vend aux États-Unis, là.
Ouais. Puis, est-ce que nous... Ben,
puis la raison pour laquelle achètent à mes Canadiens, ouais, c'est en raison du dollar qui est canadien qui est très faible.
Exact. Puis est-ce que nous, de notre côté, du côté des entreprises, on commence à se prendre en main? Parce que là, on dépendait du grand frère pour vendre. Mais là, est-ce qu'on essaie de diversifier nos exportations? Est-ce qu'on essaie de regarder ce qui se passe vers l'Europe? Ou sinon, de l'autre côté, c'est dans le secteur de Vancouver, on va regarder ce qui se passe dans le secteur de la Chine, peut-être?
Ben, ça fait des années que Ottawa s'organise pour ça, là, parce qu'on a quand même une entente avec l'Asie, on a une entente avec l'Europe quand même. Donc les conditions sont là. Mais est-ce que les entreprises ont pris avantage de tout ça? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'argent était facile aux États-Unis.
Oui, c'est ça.
T'sais, l'argent, c'est comme l'eau, hein. Quand on verse de l'eau sur une montagne, l'eau va toujours suivre le chemin le plus facile pour aller vers le bas. C'est la même chose avec l'argent, là. L'exportation aux États-Unis, c'était facile, c'était pas cher. On parlait anglais. Eux parlent anglais. Les règles sont sensiblement les mêmes que nous. Tandis que trajet avec l'Europe, dans l'agroalimentaire, les règles sont différentes. En Asie, c'est la même chose.
Mais moi,
c'est
ça m'inquiète loin, un peu. La même langue. Ouais, moi, ça m'inquiète c'est un ça. Peu parce que je peux pas croire que le pays développé dans lequel on vit fait face à des exigences économiques si fortes qu'on s'en va piler un peu sur nos standards de qualité. Puis ils sont trop élevés parfois. T'sais, j'entendais un commerçant là, d'ici avec des restaurants dire « Nous, on aimerait exporter quelque chose en Ontario. » En Ontario, là, on n'exporte pas grand, t'sais, c'est pas si loin, mais les permis pour le faire sont tellement chers, c'est dans les 100 000 $ que ça ruinerait notre capacité à essayer de tester le produit sur le marché versus si tu le fais à partir du Liban puis t'amènes peut-être tes baklavas, ben t'as bien moins de contraintes. C'est pas normal. C'est plus dans cette façon-là que je travaillerais. Mais si on se ramasse à pas être capable de nourrir nos familles au Canada, c'est particulier. Puis les camionneurs, ça va avoir un impact aussi sur cette industrie-là. Ça va avoir un impact. C'est tellement énorme ce qu'on vit.
Oui, bon, ouais, c'est absolument. C'est une remise en question du commerce intérieur et à l'extérieur pour soutenir nos PME. Tu relèves un problème important de barrière interprovinciale. Tu sais, il y a deux provinces à blâmer, à mon avis, là, pour ce qui est des restrictions entre provinces. C'est l'Ontario et le Québec, là. Ça fait des années que c'est très difficile de transiger à travers le Canada en raison de ça. Alors, s'il y a une bonne chose qui se passe actuellement, c'est qu'on a des discussions là-dessus, chose qui n'arrivait pas auparavant, mais ce sont les provinces qui vont devoir faire le travail, pas nécessairement Ottawa, là. Donc, ça va être à Québec, ça va être à Toronto avec Doug Ford, qui vont devoir vraiment libéraliser le marché pour aider nos entreprises.
Non, mais c'est. On dirait qu'on est encore dans les années où on se faisait traiter de frog, puis que nous, on les regardait avec leur. Tu sais, on me disait les visages carrés, les ci, les ça. On dirait qu'il y a une vieille mentalité de stupidité qui est restée, puis qui joue sur la politique, puis l'import-export, puis j'allais ça dire ça, l'import-export au Canada, là, je trouve ça un peu niaiseux parce que on peut y aller en auto, là, en Ontario, on peut même aller chercher du vin, puis ça prend pas beaucoup de temps, tu sais. Mais il y a ça qui n'a pas été travaillé, qui va demander du temps, parce qu'on est côté administratif, on est très fort pour être très lent. C'est notre spécialité. Puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui en arrache depuis 2 ans. On est là-dedans. Depuis 2-3 ans, on est là-dedans à dire les banques alimentaires sont pleines. Puis là, pour une histoire de tarifs américains sur de l'acier, on s'en va jouer dans ce qui est matière première de table, de repas. Chez nos voisins, là, tu sors de chez toi, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, ou encore, tu es à l'intérieur de chez toi et tu es concerné en ce moment.
Oui, absolument. Ben, moi, je suis Québécois qui ne vit plus au Québec. Là. Ma femme, elle vient de Québec, la ville de Québec. Tu sais, ça fait quoi, 25 ans qu'on vit à l'extérieur de la province, puis les Canadiens nous aiment, là, nous adorent, aiment notre culture et surtout aiment notre culture alimentaire. Tu sais, le Québec se vend à l'extérieur du Québec. Puis à chaque fois que je donne une conférence au Québec, j'essaie de rappeler aux gens que tu sais, c'est un avantage concurrentiel que le Québec a. La culture que l'on a là se vend. Et les gens veulent du Québec dans leur assiette le plus possible. Fait que oui, peut-être que des gens entendent certains commentaires, mais il en demeure pour moi que les connaissances culinaires du Québec sont reconnues à travers le pays et même à travers le monde. Là.
Puis, tu sais, même à l'interne au Québec, on a des choses à regarder. Puis, tu sais, je veux pas parler de gestion de l'offre, on en a parlé toi et moi la dernière fois, mais moi, j'ai entendu une histoire, puis tu seras là peut-être pour la confirmer, cette histoire-là, ou peut-être me corriger sur certains trucs, mais un producteur de lait qui veut faire du fromage doit payer une cote à la Fédération des producteurs de lait du Québec pour ensuite fabriquer son fromage. Il peut pas prendre son fromage, il peut pas prendre son lait, le transformer en fromage, puis ne pas payer la cote à la Fédération des producteurs de lait du Québec, alors que c'est son lait à lui qui vient de fabriquer. C'est-tu ce genre d'histoire-là que tu entends dans l'industrie?
Oui, entre autres. Ben, si, en fait, le producteur peut faire son propre fromage, c'est pour lui et sa famille.
Exact.
Mais s'il veut vendre son fromage, oui, effectivement, ce que tu viens de décrire est exact. La gestion de l'offre, en fait, s'il y a une chose que les Canadiens n'aiment pas du Québec, c'est à quel point le Québec tient... tiens, Mordicus a amené la gestion de l'offre telle qu'elle est. Ça, c'est certainement un irritant. Là,
mais si ça existe, M. Charlebois, vous êtes professeur en agroalimentaire, vous êtes là-dedans depuis des années, vous connaissez ça comme peut-être plus que votre femme. Est-ce que il y a encore des avantages? Mais il y a encore des avantages ou pas? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne? Parce que ça, c'est quelque chose que je connais pas, mais si on le maintient, il doit y avoir un avantage majeur ou encore on n'a pas fait le prorata depuis des années sur ce qu'on gagne et on perd, puis la colonne de perdants a augmenté.
Il y a une raison, c'est 48 milliards de dollars. Il y a 48 milliards de dollars de quotas sur le marché actuellement.
Donc un agriculteur, donc un producteur de lait qui a payé pour des quotas, faudrait pour si on rachète tout ça, un peu comme les chauffeurs de taxi dans le temps là, quand Uber est arrivé, faudrait dédommager tous ceux qui sont détenteurs de quotas de lait.
Ok, mais au nombre d'argent qu'on gaspille dans des stupidités, puis on peut en faire une liste puis une liste puis une liste, on peut-tu régler les vrais problèmes? On peut-tu aller à la
source? Je pense que la solution est un peu entre les deux. Est-ce qu'on devrait racheter certains quotas? Absolument, parce que, écoute, j'ai visité certaines fermes laitières au Québec, là. On attache encore les vaches, là. Puis moi, j'ai travaillé sur des fermes laitières dans les années 80, puis c'est comme si c'était, il n'y a rien qui a changé. Et cette production-là coûte très cher, là. Mais il y a d'autres producteurs laitiers au Québec qui sont entrepreneuriales. Ils réinvestissent dans leurs fermes, des fermes qui sont très modernes. Eux, ceux-là, faut les protéger et les garder parce qu'ils produisent du bon lait, puis le lait est pas cher. Ce qui arrive actuellement, c'est qu'on nivelle par la moyenne et ceux qui sont pas productifs, ceux qui sont pas efficaces, ben poussent les prix à la hausse. Moi, à mon avis, si on a racheté des quotas, on devrait racheter des quotas de certains producteurs, mais il faut quand même protéger la production laitière parce qu'aux États-Unis, là, si on met fin à la gestion de l'offre demain matin, là, je pense aux régions au Québec, là, ça va être très difficile de maintenir une occupation du territoire adéquate sans une filière laitière forte au Québec. Ouais. Il faut la protéger, à mon avis.
Non, je comprends. Mais à ce moment-là, pourquoi on paye si cher le lait au Québec? C'est pas en raison des producteurs laitiers. À chaque fois que je parle avec un producteur laitier, ils disent « Yann, on roule vraiment pas sur l'or ». Mais il y a des entreprises qui s'occupent de le traiter, ce lait-là, puis de le redistribuer, qui, eux, si on a des actions de ces entreprises-là, c'est une vraie mine d'or. Est-ce qu'on les surveille, ça, ces fameux distributeurs de lait-là, sur leurs profits? Je veux dire, c'est des profits mirobolants à chaque année, là.
Ouais, le problème, le Québec est une souveraine, est une nation distincte par rapport au prix du lait au détail. C'est sûr, là. Le lait est très cher. Pourquoi? Parce que le prix du lait est réglementé par la Régie des marchés agricoles du Québec. Il y a la suggestion de l'offre, ça c'est une chose, mais il y a les prix au détail qui sont gérés par la régie, puis je trouve qu'on pénalise beaucoup, beaucoup les familles à ce niveau-là. Pourquoi qu'on réglemente les prix au détail? J'en ai aucune idée. Ça fait des années que ça dure, puis moi je trouve que c'est un non-sens de voir du Coke ou du Pepsi se vendre moins cher que du lait au Québec.
Ouais.
C'est aucun bon sens.
Ah, t'es-tu content? T'as tout le temps de la job. On te voit tout le temps partout, Sylvain. On te demande tout le temps en entrevue. T'as choisi le bon métier, puis en plus, ben, t'es un passionné, ça s'entend.
Absolument. Ben, j'adore ça, puis merci de m'inviter une fois de temps en temps. Ça me défoule, puis je prends ça un peu comme une thérapie, finalement.
Ouais. Là, tu passes pas ton été en Nouvelle-Écosse. Là, je t'ai vu dans les bureaux de Radio-Canada hier. Ça veut dire que t'es à Montréal, là.
À Montréal, ben en fait, on a un chalet à Saint-Sauveur dans les Laurentides.
Ah, maudite voilà. Vie plate.
Fait qu'on passe au... Il y a d'autres pires places dans le monde, là, mais dans les Laurentides, vraiment, c'est ça fait quoi, 20 ans qu'on a un chalet ici, on adore ça.
Ah, moi, j'aime pas ça, il y a de la mouche, là, fait que garde-les ton chalet dans les Laurentides, là, genre. Oublie ça.
Mais on va être à Québec la semaine prochaine pour visiter la famille, alors voilà.
Ben regarde, si tu veux te sauver de ta famille, des fois, les enfants, tu peux les entendre, tu passeras en studio. Salut!
Salut! Bye-bye!
Tu dis ça, mais tu y mets un peu, on est deux enfants aussi. Là.
L'excellent Sylvain Charlebois, professeur à l'Université de Dalhousie et directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. C'est The Food Professor. Le podcast sera disponible dans les prochaines heures pour tous ceux qui ont raté l'entrevue du début. Là. C'est un excellent sujet. 11h57, on vient. Marceau, le